Ces derniers mois, suite à l'affaire Weinstein, le féminisme a fait l'objet d'un nombre incalculable d'éditoriaux et de polémistes en tout genre. Ce qui demeure néanmoins le plus intéressant, c'est le regard de féministes sur le féminisme, son actualité et son avenir. Que restera-t-il de MeToo ? Y aura-t-il un avant et un après ? Assistons-nous à l'avènement d'une nouvelle vague féministe avec ses nouvelles figures, ses nouvelles organisations ? Le vendredi 24 août 2018, dans le cadre du Verpop à la Cité Miroir à Liège, Etopia organisait le débat « Féminisme, une nouvelle vague, de nouveaux combats ». Avec comme intervenantes trois femmes. Rokhaya Diallo, écrivaine, réalisatrice, journaliste et militante féministe française. Nathalie Grandjean, chercheuse à l'Université de Namur, doctorante en philosophie et administratrice de SOFIA, le réseau belge des études de genre. Isaakia Katabi, coprésidente d'Écolo. Le débat était animé par la journaliste Florence Hainaut.
Je suis contente d'être ici, et ce n'est pas une formule de politesse, je suis vraiment contente d'être ici. C'est ce que j'appelle un plan sans accro. Zakia m'envoie un WhatsApp pour me demander si je veux modérer un débat avec Nathalie Grandjean, qui était ma prof de philo, et Rokhaya Diallo, je fais « clair ». Et puis c'est annoncé, et ça fait 3 semaines qu'on se fait insulter.
Et moi aussi.
Donc, bah oui, toi, bah oui, avec toi, évidemment. Et ça fait donc 3 semaines que Zakia se fait insulter, je me fais insulter, Rokhaya se fait insulter, Nathalie se fait pas insulter, je trouve ça un peu injuste. Je comprends pas pourquoi. Par des gens qui ont demandé, je me suis évidemment fait traiter de raciste anti-blanche, enfin soit. Des gens qui ont demandé aussi si les autres intervenantes étaient mamans. Parce que je ne le suis pas et je me suis exprimée plusieurs fois sur le fait que je n'avais pas envie de l'être. Et donc, on s'inquiétait un peu de la représentativité des mamans. Ce n'est pas, c'est pas un débat sur l'épisiotomie. Et quand bien même, je crois que je pourrais gérer. Donc, in fine, on s'est retrouvés avec 50 types qui nous expliquaient comment organiser un débat féministe. Et il y en a qui avaient promis de venir. Et je connais leur bête tête et ils ne sont pas là. Est-ce qu'il y a un de ces petits chatons qui avait promis de venir nous insulter qui est venu aujourd'hui ? Toi, ah non, toi je te reconnais, toi c'est bon. Donc ils ne sont pas là, c'est dommage, c'est toujours au moment où je veux en venir, Romain, tu vois qu'ils se débinent, ça m'énerve. Enfin, les intervenantes, donc, Zakia Katabi, Khmer verte, intolérante, inquisitrice et donneuse de leçons, une définition qui vous est gracieusement offerte par Michael Modric-Amen, l'homme qui... L'homme qui ne sert à rien, à part faire des blagues, c'est l'extrême droite, mais ça ne sert jamais à grand-chose, mais celle-là particulièrement, ça ne... Ouais. Nathalie Grandjean, philosophe, chercheuse à l'Université de Namur, administratrice de SOFIA, le réseau belge d'études de genre. Elle vient de réussir brillamment sa thèse sur Donna Haraway. Quiconque a déjà essayé de lire Haraway, c'est tout à fait brillant, et elle a très peur que je me venge parce qu'elle m'a mis 13 à mon travail de philo. Rokhaya Diallo, qui, contrairement à ce que la presse a pu laisser croire, n'est pas le sujet du débat de ce soir. Rokhaya est journaliste, réalisatrice, militante, féministe et antiraciste. Que ça plaise ou non, qu'on soit d'accord avec tout ce qu'elle dit ou pas, que ça heurte, que ça nous amène à remettre en question nos structures mentales, en fait, peu importe, c'est une interlocutrice. Et ce n'est pas des comptes Twitter anonymes qui vont nous dire qui on a le droit d'inviter pour discuter. Chapitre clos. Merci. Alors le féminisme, d'après le petit Robert, c'est l'attitude des personnes qui souhaitent que les droits des femmes soient les mêmes que ceux des hommes. Et c'est intéressant parce que d'après le Robert, édition 2016, au verbe apprivoiser, on trouve cette illustration. Apprivoiser une femme, venir à bout de ses résistances. On n'est pas sauvés. Les mots ont du sens, ils ont du poids, parfois ils sont performatifs aussi. Je me demandais pour vous trois, alors le féminisme a une histoire. Déjà, féministe, à la base, c'est une insulte. C'était une insulte pour les hommes qui pensaient que les femmes étaient autre chose que des pots de fleurs qui faisaient des enfants. Voilà, retournement du stigmate. Aujourd'hui, c'est pour beaucoup de femmes, mais pas toutes, hein. Fier marqueur identitaire. Pour vous, féministe, ça veut dire quoi ?
Ma définition du féminisme, en fait, c'est une définition très, très simple, qui est celle de la promotion de l'égalité des femmes et des hommes, en fait, l'égalité entre les genres. Et puis moi, ce que j'y ajoute, c'est de ne pas peut-être faire primer une forme d'égalité sur une autre. Donc c'est vraiment penser toutes les formes d'égalité, ne pas estimer que certaines sont prioritaires par rapport à d'autres.
Pour moi, le féminisme, c'est un mouvement. D'abord, c'est un mouvement collectif qui vise l'émancipation face au patriarcat, et je vais dire des mots un peu jargonneux, mais domination, hétéronormativité, donc le fait qu'on est dans un système aussi qui promeut l'hétérosexualité comme un système dominant, donc le patriarcat, l'hétéronormativité. Donc c'est un mouvement qui vise à sortir finalement de tous ces systèmes de domination qui nous assignent à des places et à des rôles. Merci.
Public acquis,
c'est bien.
Voilà, c'est pas vrai.
Zakias, sur ton profil Twitter, il est marqué quoi ? Féministe extrémiste, c'est ça ?
Non, radical. Extrémiste, radical, c'est autre chose. Pardon. Ça, c'est en lien avec l'islam. Mais je n'ai pas fiché.
Non, je suis désolée. Voilà.
Donc,
chacun ses trolls.
Voilà, féministe radical, c'est vrai. C'était aussi en réaction à un certain nombre d'hommes qui se sont découverts féministes à l'aune de la diversité culturelle qu'on n'avait jamais vue. Donc je m'en expliquerai après. Donc, mais pour moi, le féminisme, j'entendais ce que Nathalie Grandjean. Donc longtemps, moi aussi, j'ai dit que c'était un mouvement. Aujourd'hui, je dis que c'est un ensemble de mouvements. Parce que je m'interroge. Le féminisme, c'est un ensemble de mouvements. Et on en discutera parce que tu vas évoquer les vagues, etc. Bon, c'est un ensemble de mouvements, mais qui ont comme objectif, en effet, la question de l'égalité, la question de faire exploser le carcan de la domination patriarcale dans lequel on est. Alors longtemps, c'était la domination patriarcale, et ça, c'était quand je disais le mouvement. Aujourd'hui, comme je dis, plusieurs mouvements, c'est aussi parce que, et on en discutera, je fais l'expérience douloureuse appartenant à un groupe de femmes privilégiées et dominants, d'être moi-même, en fait, potentiellement une dominatrice. Pardon. C'est en le disant que je me rends compte. Pardon. Et
tu as besoin d'être une féministe blanche. Retiens-toi, ça va aller. Une dominatrice. Alors, évidemment, si on avait demandé à vos mères respectives... Non, c'est bon, c'est enregistré, c'est live tweeté, t'inquiète. Si on avait demandé à vos mères respectives ce qu'être féministe voulait dire pour elles, elles n'auraient pas répondu la même chose. Nathalie, est-ce que tu peux brièvement rappeler première, deuxième, troisième vague ? On passera à la quatrième après.
Alors là, première vague, donc le féminisme... Évidemment, une histoire assez longue. La première vague, on peut dire qu'elle débute déjà à la Révolution française, la Déclaration des droits de la femme, mais surtout elle se concentre dans les premiers moments du XXe siècle avec toute la revendication autour de la citoyenneté. Donc les femmes étaient des mineures, elles n'avaient aucun droit, etc. Elles n'avaient pas le droit de vote, pas le droit... Elles étaient des mineures au regard de la société, donc elles n'étaient pas des majeures. Elles étaient dépendantes de ceux qui étaient donc les hommes, etc. Donc c'est cette première vague qui va conquérir les droits de la citoyenneté. Ensuite, une deuxième vague qui arrive après la Seconde Guerre mondiale. Et qui est la deuxième vague consiste à réclamer le fait que le corps appartient à celle qui l'habite. Donc le corps nous appartient, et n'appartient pas... ça a l'air un peu bête, dit comme ça, c'est un peu... ils ont foncé une porte ouverte, mais le corps des femmes, il fallait réclamer finalement leur propre appartenance, et donc ça a été toute une série de luttes autour notamment de la santé reproductive, donc accès à la contraception, accès au droit à l'avortement, etc. Donc ça, c'est toujours une lutte qui est actuelle. On sait bien qu'en Europe, toutes les femmes n'ont pas les mêmes accès au droit à l'avortement, mais aussi toute une discussion autour du fait que les femmes pouvaient avoir accès à leur propre sexualité et pas simplement subir une sexualité que les hommes leur auraient imposée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, quand on brosse comme ça un tableau caricatural et évidemment qui ne rend pas compte finalement de toutes les luttes qui ont fabriqué l'histoire des féminismes. Ça, c'est la deuxième vague. La troisième vague, elle arrive plutôt à fin des années 80, années 90. Et là, c'est une vague qu'on va appeler d'une part tournant culturel, mais qui va finalement être une vague dans laquelle un certain nombre de minorités vont réclamer finalement leur place au sein du féminisme. Et donc, il va y avoir tant les minorités LGBT, les lesbiennes, les gays, les trans, etc. Donc tous ces gens qui justement critiquent l'assignation hétéronormative, comme je vous le disais dans la définition, et qui vont fabriquer aussi une nouvelle identité féministe et aussi d'autres minorités, donc les minorités culturelles, hein, qui vont aussi revendiquer l'idée que ce n'est pas seulement les flammes blanches qui disent ce qu'est le féminisme et comment le féminisme doit se faire. Hein. Donc il y a de nombreux textes comme ça assez fabuleux. Comment dire, toi, féministe blanche, que peux-tu dire sur ma condition de femme noire, hein. Donc avec finalement une prise en compte d'autres types de domination à l'œuvre. On est une femme, mais on est aussi, par exemple, je suis une femme blanche, de classe moyenne, bourgeoise, etc. Bon, voilà, donc je suis aussi quelque part une dominante, pas quelque part, je suis aussi une dominante, mais en même temps, je peux être aussi une dominatrice, si vous voulez. Je suis dominante et dominatrice, pour faire plaisir à ma voisine de gauche, parce qu'entre femmes, on est toujours solidaires. Voilà, c'est ça. Pour lutter contre le patriarcat, voilà, ça c'est le féminisme. Donc je serai aussi dominatrice comme ma voisine de gauche, pas de problème.
Moi je voilà. Modère. Hein, je...
Vous pouvez nous rejoindre. Hein, dans notre... Bon, voilà, donc la troisième vague. Alors, en même temps, il y a aussi toute une... Je termine après, j'arrête de faire le prof. Dans la troisième vague, il faut aussi souligner quand même quelque chose qui est à la fois une avancée, mais qui a été aussi critiqué par les mouvements militants, c'est toute la phase qu'on appelait d'institutionnalisation du féminisme. Hein, où les féministes, finalement, ont réussi à mettre un pied dans les institutions, à faire voter des lois, etc., à rentrer au sein des institutions de manière à pouvoir faire, par exemple, des groupes de pression au sein des politiques, etc. Donc ça a été... Pardon, j'arriverai pas... J'avais essayé de bien le mettre. Voilà, ça a été aussi... Ça faisait partie de cette troisième vague. Alors, voilà, donc... Est-ce qu'on est maintenant, il y a certaines qui pensent qu'on serait peut-être dans une quatrième vague, mais
si on est dans une
autre discussion.
Vague, c'est que la troisième vague a réussi.
Je pense que les vagues ont des conséquences qui s'additionnent. Alors, la première des choses que je voudrais dire, c'est qu'on parle du féminisme européen, parce qu'il y a eu des féministes dans d'autres pays avant, depuis très longtemps. Et c'est vrai
qu'il y a des Olympes de gouges africaines.
Oui, il y a eu des femmes qui ont résisté à diverses formes d'oppression. Il y a des pensées de libération qui ont existé dans des contextes autres. Et puis même dans les pays occidentaux, comme aux États-Unis, dès le 19e siècle, il y a une femme esclave qui s'appelle Sojourner Truth, qui, dans un congrès de féministes, majoritairement, enfin, exclusivement blanche d'ailleurs, leur a demandé « Ne suis-je pas une femme ?» Et c'est cette question-là, en fait, la question de la féminité pour les femmes noires qui étaient esclaves, c'était la première des questions, c'est-à-dire, est-ce que moi, en tant qu'individu, je peux me revendiquer comme étant une femme et participer à vos luttes et être reconnue comme telle ? Donc c'est important effectivement de penser que le contexte n'est pas seulement celui qui est le nôtre actuellement, donc qui est là, en l'occurrence pour nous quatre, la France et la Belgique. Et puis la question que tu as posée sur nos mères, elle est intéressante aussi, parce que moi, ma mère, quand elle est née, elle était indigène de la République française, donc c'était un sujet. Et donc si ses droits n'étaient pas reconnus, c'est pas seulement parce qu'elle était une femme, mais c'est aussi parce que c'était une femme africaine, sénégalaise en l'occurrence, donc il y a eu une conjonction de lutte qui existe depuis très longtemps, et des femmes pour lesquelles les droits, la reconnaissance des droits ne relevait pas uniquement du fait de leur genre, du genre en tout cas qui était celui qui leur avait été assigné à leur naissance. Donc je pense que cette complexité-là, même si elle émerge aujourd'hui dans le débat public de nos pays respectifs depuis peu, elle a toujours existé. Il y a des femmes qui portent cette complexité depuis très très longtemps en elles, simplement elles n'avaient pas forcément eu les moyens de la rendre visible auparavant.
Aujourd'hui, c'est visible. Oui, vas-y.
Il y a un certain nombre de femmes qui, celles qui vivent la double, appartenance femme de la diversité, qui en fait, à un moment donné, vivent tellement cette identité de la diversité, oublient qu'elles sont femmes. Et donc, certaines discriminations qu'elles ont vécues de ce fait-là, leur paraissent, enfin, elles ne sont pas vécues comme des discriminations sexistes. Et donc, à un moment donné, moi, j'ai rencontré des femmes qui, dans une réalité ou dans un combat, ont redécouvert cette propre identité parce que, ici, en l'occurrence à Bruxelles, on leur a signé comme identité que celle de l'immigration. Voilà. Et donc, à un moment donné, ça a aussi permis à certaines femmes de se dire, mais en fait, je suis une femme. En tant que femme, enfin voilà. Et moi, c'est une découverte que j'ai faite parce que je n'avais pas du tout. Et donc, il y a aussi cette réalité-là qu'à un moment donné, tu disais, bon, c'était les deux, c'était voilà. Pour certaines, longtemps, ça n'a été qu'une seule identité, qui était celle de la diversité. Et puis alors, elle se découvre femme avec tout ce que ça peut, ce que charrie et ce que ça peut aussi amener comme difficulté. Alors, c'est à travers la difficulté qu'elle le découvre, mais c'est une formidable découverte parce que pour certaines, oser se revendiquer femme en soi, c'est déjà une première victoire.
Est-ce qu'on doit choisir de quoi on est victime, de racisme ou de sexisme, et comment on démêle l'un de l'autre?
Alors, c'est difficile de l'identifier. Bon, dans une autre vie, j'ai travaillé au Centre pour l'égalité des chances avec Henri. Et au moment où l'institution pour l'égalité entre les femmes et les hommes a été créée, j'avais été chargée au Centre d'essayer de travailler à une cellule commune pour essayer de voir à quel moment une femme vit quel type de discrimination et des choses comme ça. Ça n'a jamais été simple, ça n'a jamais abouti.
Alors, moi, je pense qu'on ne peut pas démêler, en fait, quand on est une femme issue de diverses minorités. C'est difficile de savoir ce qui génère une discrimination, d'autant plus que les appartenances, en fait, lorsqu'elles sont simultanées dans une identité, elles opèrent ensemble et elles produisent, en fait, une discrimination différente. C'est-à-dire qu'une femme non blanche va voir son corps exotisé, mais exotisé différemment en fonction de son origine. Une femme asiatique, dans l'imaginaire collectif, c'est pas une femme noire, c'est pas une femme arabe, et ce n'est pas une femme blanche. Et de la même manière, donc voilà, tout ça, c'est... Y a pas très longtemps, j'ai lancé un débat sur les réseaux sociaux, sur le porno et sur les hashtags en fait, que les gens recherchent sur les sites porno avec des origines. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de clichés. On voit par exemple que la catégorie hijab sur les sites porno est apparue autour de 2003-2004. Et on voit bien que ça fait écho à la fois à la guerre en Irak, au débat sur le voile en France, etc. Donc on voit qu'il y a une production et une répercussion en fait, des débats autour du corps des femmes, sur les fantasmes en fait qui sont développés chez les hommes. Et donc il y a des identités qui vont, voilà, si vous tapez, enfin ça fait très longtemps que ça s'est, mais si vous tapez beurette sur Google, vous avez toutes les chances de tomber non pas sur l'histoire de la femme arabe ou des femmes arabes, mais sur des sites porno, parce que c'est un fantasme extrêmement répandu. Donc ça veut dire qu'en tant que femme non blanche, on vit en fait une forme de sexisme qui est très spécifique à l'origine qu'on a. Et puis, ce qu'il y a aussi qui est intéressant, c'est qu'on vit des choses aussi différentes des hommes qui appartiennent au groupe ethnique auquel on appartient. Donc ça veut dire que ça ne produit pas toujours les mêmes conséquences. Là où, par exemple, un homme va être contrôlé au faciès, une femme ne le sera pas. Dans le féminisme qui a été produit, je pense notamment en France, autour des femmes issues des banlieues populaires, issues de familles musulmanes, l'injonction qui a été faite aux femmes, je trouve, dans les discours politiques, de droite comme de gauche, était l'injonction à se désolidariser de leur famille, dont on estimait qu'elles étaient oppressantes, plus oppressantes que le reste de la société, et d'une certaine manière, de marquer la distance par rapport aux hommes de leur famille, comme si ces hommes étaient plus, comment dire, produisaient davantage d'oppression que le sexisme qui touche toutes les femmes, alors que les femmes, quelle que soit leur couleur, elles sont affectées par le même sexisme que toutes les autres. Après, il y a des contextes voilà, particuliers et j'imagine des conséquences culturelles, mais je veux dire, en France, il y a une femme qui meurt tous les deux jours et demi sous les coups d'un homme, c'est indépendant de sa couleur de peau, de son origine sociale. Donc je crois qu'on ne peut pas savoir de quoi relève tel type de discrimination, tel type de traitement, tel type de remarque, parce qu'il y a un mélange qui fait que on va qualifier des femmes d'une certaine manière parce que le croisement de plusieurs appartenances produit un imaginaire différent, un imaginaire nouveau. Et puis des femmes... effectivement, non blanches peuvent être exposées à une forme de racisme, comment dire, matinée de sexisme, qui peut être produit par d'autres femmes qui appartiennent à d'autres groupes ethniques. Donc ça, c'est aussi important de voir qu'on est tous, d'une certaine manière, affectés par le sexisme majoritaire, parce que ça, voilà, on a demandé de définir le féminisme, mais le sexisme, si on doit le définir, c'est vraiment un système d'oppression et de domination qui affecte tout le monde et qui aussi affecte la manière dont on appréhende le monde et dont on appréhende les autres femmes.
Magnifique. Que dire ? Il y a une certaine, comment dire, frilosité à aborder la période coloniale, point commun entre la Belgique et la France d'ailleurs. Pourquoi cette tension autour des questions postcoloniales, entre autres quand il s'agit du corps des femmes? Tu sais pas, je peux demander à quelqu'un d'autre.
Je n'ai pas du tout la compétence pour répondre à ça, donc je vais écouter attentivement ce que mes... Voilà. Et vous n'entendrez sans doute jamais un homme reconnaître que ce n'est pas sa compétence.
Oui.
D'ailleurs.
C'est pour ça qu'on a toujours eu des hommes le dimanche, parce qu'ils ont toujours dit oui. C'est vrai, en plus.
Je pense qu'on a toutes quelque chose à dire sur le sujet. Je pense que On voit à quel point dans les conquêtes violentes, dans les conquêtes guerrières, la propriété, entre guillemets, la revendication qu'on peut avoir sur le corps des femmes était une revendication extrêmement symbolique. Et on voit d'ailleurs aujourd'hui que dans les conflits armés, le viol reste une arme de guerre, etc. etc. Dans la colonisation française, on sait que déjà dans les années 50, il y avait des cérémonies de dévoilement des femmes algériennes qui étaient opérées par des femmes de généraux français. Donc il y avait vraiment cette idée de montrer aux hommes algériens que leurs femmes appartenaient à la puissance coloniale pour, d'une certaine manière, s'en prendre à leur virilité, puisqu'on imaginait que leur virilité était associée aux femmes et que les femmes, d'une certaine manière, étaient leur possession. Donc on était vraiment dans une lecture comme celle-là de la question des femmes. Et je pense que c'est quelque chose de très très ancien. Je pense qu'on peut même remonter avant la colonisation, avec déjà l'esclavage, la manière dont les femmes en fait ont été des corps qui ont reproduit et qui ont été vraiment des machines à produire de l'esclave, à produire des esclaves qui ont été complètement dont la sexualité en fait a été niée et qui ont été réduites en fait à des fonctions reproductives, et les hommes en fait ont été utilisés comme des instruments de reproduction et séparés. Enfin, ça vraiment, on voit que ça a des conséquences même dans les structures familiales afro-américaines ou antillaises encore aujourd'hui, parce que il y a des pratiques qui se sont produites pendant plusieurs siècles. Et puis aujourd'hui, je pense que la lecture postcoloniale des femmes, la manière dont on apprend, en fait, dont on imagine que une femme issue de minorité doit forcément s'exposer publiquement pour être reconnue comme étant une féministe légitime, eh bien, c'est une lecture extrêmement extrêmement fermée. Et je pense qu'il y a une forme de, allez, on va pas être sexiste, on va dire de maternalisme, dans l'idée que le chemin du féminisme ne passe que par une voie. C'est-à-dire que forcément, la tenue type de la bonne féministe, c'est celle-là. Et puis après, je pense aussi qu'il y a, pour revenir à peut-être ça lie les deux questions, mais qu'il y a aussi des revendications qui sont spécifiques aux femmes non blanches, et qui vont peut-être être considérées comme secondaires pour les femmes blanches. Je pense à toutes les revendications, notamment esthétiques, là où les...
Le pansement.
Pas seulement, mais même au-delà. Voilà, effectivement, cette question-là. Mais là, on est même sur du... Ça, ça ne concerne pas seulement les femmes, d'ailleurs, mais sur la question de la beauté, par exemple. C'est-à-dire que là où, pour des femmes blanches, la question de la beauté, la beauté, c'est un carcan dont il faut se libérer, pour les femmes non blanches, la beauté, c'est une célébration parce qu'elles ne sont pas reconnues comme étant belles, comme appartenant au canon de beauté. Donc, elles vont revendiquer la beauté. Et donc, elles vont... C'est-à-dire que leur rapport à l'esthétique et à la domination esthétique va être celui de retourner effectivement ce dont les femmes majoritaires considèrent qu'il faut sortir pour dire non, nous, on est belles, et c'est ça qui est important pour nous, c'est d'être reconnues comme belles. Et ça,
c'est
ça
le débat. Est-ce que Beyoncé nuit au féminisme ou pas?
Exactement. Quand on pose la question de Nicki Minaj ou de Beyoncé, moi, j'avais lu effectivement un texte sur Nicki Minaj, donc la rappeuse américaine Nicki Minaj, dont on disait qu'elle est très sexy, etc., dont on disait qu'elle desservait la cause. Ça, c'est vraiment le truc, vous desservez votre cause, parce qu'elle montrait son corps, etc. Et il y avait eu ce débat avec, je me souviens, Lou Doyon, donc l'actrice française, avait donné une interview où elle disait que des femmes comme Beyoncé, comme Nicki Minaj, en exposant leur corps, ne rendaient pas service au féminisme. Et on voit bien qu'il y a certains corps qui sont considérés comme étant vulgaires et d'autres formes de nudité qu'on accepte parce que voilà, Lou Doyon est très très fine, elle a une silhouette très différente, et elle-même avait posé nue à plusieurs reprises, mais trouvait que c'était moche, enfin en tout cas que c'était vulgaire quand c'était Beyoncé ou Nicki Minaj, assez étrangement. On ne comprenait pas vraiment pourquoi elle avait le droit de le faire et que Nicki Minaj ne pouvait pas le faire. Et en même temps, Nicki Minaj, en étant très sexy, c'est une des rares femmes qui domine dans le rap, qui est sa propre patronne, qui produit de l'argent, qui est productrice, etc. Et donc ça, c'est intéressant aussi de voir qu'elle a trouvé une forme de libération en assumant son corps et en n'étant pas dans des canons qui sont ceux de la libération traditionnelle du corps de la femme.
Rappelle-moi un peu le droit à disposer de son corps, ça veut dire quoi exactement?
Ben c'est ça. Voilà, exactement. C'est pouvoir décider, voilà, ben je revendique cette beauté parce que j'estime que c'est comme ça que je me réapproprie mon corps, ou en tout cas par rapport aux dominations. Effectivement, c'est tout à fait ça.
Alors, il y a plein de points de désaccord entre féministes, la question des quotas, la prostitution, la GPA, le logo de ceinture, je vous jure. J'ai dû lire un chapitre pour le cours de Nathalie. C'est parce que c'est le bonheur d'envoyer un WhatsApp à sa mère qui dit « Je termine mon chapitre sur le logo de ceinture et j'arrive. » Voilà. Autre point de désaccord, est-ce qu'on a le droit ou pas de se faire frotter par des débiles dans le métro? Qu'est-ce qu'il y a... Ouais. Moi, je dis non, mais certaines disent oui. Qu'est-ce qu'il y a comme grosse ligne de rupture entre féministes ?
Moi, je pense qu'il y a il y a en effet des questions qui, historiquement, nous partagent. Tu l'as dit, la prostitution, la GPA. Mais ces questions-là n'ont jamais divisé le mouvement des femmes comme l'enjeu de la gestion de la diversité culturelle dans le mouvement le fait. Et la difficulté de gérer l'enjeu de la diversité, en fait, il est violent dans le mouvement des femmes, mais d'abord par le fait de certains hommes qu'on n'a jamais vu militer pour la question de l'égalité, qu'à partir du moment
où le burkini est apparu,
par exemple, voilà, et où au nom de l'égalité, enfin au nom d'une égalité, enfin je pense à des figures comme Alain Destex ou d'autres qu'on n'a jamais vu militer avec nous pour la question de l'égalité, mais qui s'en sont emparés à partir d'autres préoccupations. Et donc pour moi, vraiment cette difficulté dans laquelle le mouvement des femmes se situe aujourd'hui est en fait le fait d'une autre réalité, qui est notamment celle du racisme. Alors, on évoquera la question de l'intersectionnalité. Mais parce que d'autres sont intervenus dans le débat des femmes avec d'autres, d'autres motivations, ça a fragilisé le mouvement des femmes tel qu'on ne l'avait jamais vu. Alors que, on le sait, sur la question de la prostitution, ça reste... dans ton interview, quand tu évoques le fait de défendre la liberté, que pour toi, la défense de la liberté de porter le voile ou de se prostituer, c'est la même chose, moi, je suis en désaccord avec ça. Voilà. Mais ça ne m'empêche pas de continuer à militer et d'être... Et donc, cette question, pour moi, en fait, je trouve que la question de la diversité culturelle a atteint un point de cristallisation et de division du mouvement tel qu'aucun autre... Alors, bon, moi, je n'ai pas historiquement la vue que tu as, mais je n'ai pas le sentiment que ça a autant divisé le mouvement, parce qu'à travers ces questions-là, c'est d'autres choses. Alors, c'est vrai que, comme les sociétés, de manière générale, le mouvement féministe est interpellé par des revendications qu'on n'a jamais imaginées. Moi, j'ai pour le moment, j'ai envie de dire, on l'évoquait tout à l'heure, c'est presque un deuil, une expérience assez douloureuse de me vivre comme dominante. J'ai toujours considéré, j'ai revendiqué le droit des femmes, par exemple, à pouvoir se réunir dans un espace non mixte en matière de sexe, ou même de genre, en fait, même de genre. Quand le débat autour de ces camps de formation, etc., ou de réflexion non mixte, mais du point de vue de la race, est apparu, j'ai eu du mal à me situer. Et d'abord, premier constat, c'était que je faisais partie du groupe des dominantes. C'est une question qui reste très ouverte pour moi. J'ai entendu Rokhaya témoigner dans une émission de l'expérience que tu vivais, que je ne partage pas, qui était précisément celle de la beauté ou celle du maquillage que tu dois apporter toi-même quand tu vas sur un plateau de télé, ou qu'il t'était impossible quand tu te promenais de rentrer chez un opticien comme moi je pourrais le faire du fait de l'inclinaison, enfin voilà. Et donc, en effet, c'est une expérience que je ne partage pas avec toi. Mais une fois, depuis que je l'ai entendue, je me sens en capacité de me retrouver à côté de toi dans ces combats-là. Or, j'entends dans la revendication de non-mixité raciale une expérience, une volonté de pouvoir partager. Alors, je grossis le trait, mais c'est pour me faire comprendre. Et donc, je suis en train de me perdre, mais
non.
Donc ces questions-là, je suis partagée, c'est plus que partagée, je suis profondément écartelée dans le profond respect et de la réalité qui est vécue par certaines femmes un vécu que je ne partage pas, mais en même temps dans la conviction qu'à partir d'une expérience que tu as évoquée, je peux, moi, porter le combat d'une femme noire telle que tu le vis. Parfois, je me dis, mais tiens, je vis l'expérience d'un homme blanc que moi, je refoule dans mes réunions non mixtes. Et c'est violent. Voilà. J'ai beaucoup de convictions, mais j'ai très peu de certitudes. Et je veux dire que je suis un peu perdue, moi-même, alors que je pense être de bonne volonté et continuer à imaginer que mes solidarités, elles iront d'abord et toujours envers les femmes. Toujours, sans aucune exception. Malgré les désaccords qu'ils peuvent nous opposer, pour moi, c'est ça le féminisme.
Est-ce qu'on est obligé d'être d'accord sur tout pour être féministe? Et comment on forme un mouvement si on n'est pas d'accord sur tout?
Pour moi, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais on va vers la même direction. Donc c'est ça aussi l'idée du féminisme. C'est qu'on sait qu'on a un horizon, on va ensemble, mais on va...
L'horizon?
Ben, l'horizon, c'est l'émancipation, justement. L'émancipation de nos corps, l'émancipation face aux assignations qui nous... Voilà, qui nous mettent dans des cases, qui nous font subir des dominations structurelles, structurantes. Donc on a un horizon commun, mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément obligé d'être d'accord, mais on peut être, voilà, ça fait référence à un article, on peut être dans des divergences solidaires. Hein, c'est ce qu'on disait, voilà, Maria Puy qui disait ça. Donc voilà, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais on sait qu'on va quand même dans la même direction. Et moi, il y a surtout quelque chose que je garde à l'esprit, parce qu'effectivement, je ne sais pas si on peut... à la fois mettre les débats sur la prostitution, la GPA, tous ces débats qui, entre guillemets, nous divisent. Je ne sais pas d'ailleurs si ça nous divise, ça nous fait débattre, ça nous fait discuter, ça nous fait aussi repenser le féminisme comme étant quelque chose qui est en mouvement, justement, et pas quelque chose qui est figé, pas un truc dogmatique. Ce qui est surtout très important, c'est de se dire qu'on est ensemble et qu'on doit rester solidaires entre nous. C'est exactement ce que tu
dis. Est-ce qu'on est ensemble et est-ce qu'on est solidaires?
On est solidaires, c'est important d'être solidaire, mais je pense que la première des choses, c'est qu'il faut qu'on soit capable de reconnaître nos privilèges quand on en a. Moi, je suis tout à fait... Enfin, je pense que c'est important de dialoguer, de tenir compte du fait aussi qu'il y a beaucoup de points de divergence, mais des points de convergence qui sont les plus évidents, qui sont la lutte pour le droit à disposer de son corps, notamment avec la liberté de contraception, d'IVG, etc., l'égalité salariale, la représentation des femmes dans les espaces publics, médiatiques, économiques, politiques. Donc ça, c'est des choses qui, généralement, mettent d'accord toutes les femmes. Mais d'un autre côté, je pense qu'il faut aussi se rendre compte qu'on ne peut pas être solidaire avec tout le monde. C'est-à-dire que moi, une femme raciste, je ne peux pas être solidaire avec elle parce qu'elle me nuit. C'est-à-dire que, parce que je ne suis pas seulement une femme, je suis aussi une femme noire, et elle me nuit, elle nuit à des membres de ma famille, à des membres de mon cercle, donc on ne peut pas s'associer avec tout le monde, c'est parce qu'il y a des gens qui peuvent nous faire du tort. Il faut rappeler historiquement, ça du coup là je suis un peu la casseuse d'ambiance, mais je suis un peu obligée de rappeler que historiquement aux États-Unis, il y a des féministes blanches qui ont, pour faire avancer leurs droits, dit que les hommes noirs potentiellement pourraient avoir le droit de vote avant elle, et que c'était des Noirs, et que c'était quand même scandaleux d'imaginer que des Noirs pourraient avoir le droit de vote avant elle, qui étaient des femmes blanches. Et ça, c'est important de le rappeler, qu'il y a parfois, dans l'histoire, des femmes qui ont fait des usages racistes du féminisme pour exclure
aujourd'hui
en fait,
encore
et encore aujourd'hui. C'est vrai que moi, quand je pense à ce qui s'est passé c'était en 2005 en France, où il y avait une manifestation du 8 mars où des femmes ont exclu d'autres femmes parce qu'elles portaient le voile, Manu Militari, c'est choquant. C'est-à-dire que parce qu'on peut considérer que des femmes même à supposer que toutes les femmes voilées soient dominées, ce avec quoi je ne suis pas d'accord, hein, mais c'était le cas. Est-ce qu'on punit une victime de domination? C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans quel monde on vit? Pourquoi on va brutaliser une femme? Parce qu'on estime qu'elle est victime. Et là, je pense qu'il faut aussi se rendre compte que, oui, il y a des gens qui ne sont pas forcément des alliés. Où il n'y a pas longtemps, j'avais une conversation incroyable avec... Parce que ce qui divise aussi, c'est des questions comme la question de la transidentité. Il y a des femmes qui refusent de reconnaître que des femmes transgenres sont des femmes à part entière et qui refusent de les admettre dans des cercles non mixtes et qui nient leur féminité parce qu'elles réduisent la féminité à la biologie. Et ça, pour moi, c'est un problème parce que je pense qu'on ne peut pas nier à une femme le droit de se revendiquer comme femme et d'être protégée. Il y a des violences extrêmement brutale à l'égard des femmes transgenres, des meurtres. Il y a énormément de femmes transgenres qui sont tuées, qui subissent des violences vraiment spécifiques, c'est-à-dire qui sont vraiment violentées aussi par les institutions auxquelles on demande de soumettre à des actes médicaux, à des tests psychologiques parce qu'on met en doute leur identité. Et c'est pour ça que la solidarité à tout prix, elle bénéficie forcément aux majoritaires. C'est-à-dire que les minoritaires, si elles sont solidaires avec tout le monde, elles sont solidaires aussi avec des gens qui leur nuisent. Et ça, c'est important. Moi, je pense qu'il faut toujours saisir le plus petit dénominateur commun parce que c'est celui-là qui permettra à tout le monde d'avancer et à tout le monde d'être traité de manière égalitaire. Si on essaie d'être d'accord sur tout et sur les grandes lignes, les spécificités des gens qui sont les plus faibles et les plus fragiles seront niées. Moi, c'est vrai que je comprends ce que tu dis par rapport à la question de la non-mixité dans les camps d'été des coloniaux. Alors, il se trouve que je ne les ai pas organisées, mais que
Non, mais tout le monde pense que je les ai organisées parce que j'ai été interrogée. Voilà, je les ai pas organisées, mais je suis complètement solidaire ces initiatives. Et je comprends en fait qu'on puisse avoir envie de se réunir entre femmes qui expérimentent des choses similaires, parce que on a aussi parfois pas le temps d'expliquer aux gens ce qu'on vit. C'est-à-dire que des fois, on a juste envie de parler à des gens qui comprennent immédiatement ce qu'on vit et d'avancer. C'est-à-dire après, le fruit de nos avancées peut être exposé publiquement. Ça n'empêche pas d'autres personnes d'être alliées, mais c'est important d'avoir des espaces comme ça. Et de la même manière, je pense à quelque chose. L'année dernière, j'avais organisé une table ronde en fait autour des Français d'origine asiatique. Et il se trouve que les personnes que j'ai invitées donc à parler, donc tous à part moi autour de la table, moi je modérais le débat, et tous étaient des personnes d'origine asiatique. Et je sais qu'ils se sont revus par la suite sans moi. C'est vrai qu'on se dit c'est sympa, je vous ai présenté, vous pourriez m'appeler. Mais une fois qu'on réfléchit, non, je ne suis pas asiatique et j'ai rien à faire là en fait. Moi, je peux être solidaire, je peux être une alliée et j'ai été une alliée en proposant une plateforme parce que j'ai ce privilège-là d'avoir une plateforme publique. Maintenant, je suis pas asiatique et je vais pas agir à leur place. Si après, je peux être la caisse de résonance de quelque chose, je le ferai. Mais je suis derrière en fait, derrière eux. Moi, je peux pas être parler à leur place et savoir ce qui les préoccupe en priorité.
Oui, mais personne n'en sait rien. En tout cas, moi, je n'ai pas revendiqué le droit de parler à la place des autres. Et quand je dis les solidarités, donc sur les Maria Puig, les divergences solidaires, moi, je m'inscris dans cette perspective-là, qui est de dire, OK, on peut avoir des désaccords ou pas. Enfin, je veux dire, en l'occurrence, il n'y en a pas tellement, mais on peut avoir des désaccords, on les acte, voilà. C'est dans le travail d'explicitation et de sa réalité et de ses désaccords qu'on peut construire un combat à partir d'un minimum commun. Et c'est ça que je veux dire quand je dis le fait de ne pas entendre ce qui se dit ne me permet pas de prendre la mesure de la réalité et de s'inscrire dans l'identification de ce à quoi, ce qu'on peut porter ensemble comme combat. C'est pas seulement, en tout cas moi c'était pas comme ça que je le comprends, les divergences solidaires, c'est pas seulement on a un but commun ou c'est l'égalité. Non, c'est l'explicitation des désaccords et c'est dans le travail d'explicitation. Et ce travail d'explicitation, pour moi, il doit se faire ensemble. Voilà.
Ça, c'est une question très politique. Comment on est une caisse de résonance sans confisquer la parole ?
Absolument. Et donc, c'est pour ça que je dis que je suis écartelée, parce qu'en prenant la position que je prends, etc., j'entends parfois ce que certains hommes me disent de ce que moi, je dis quand je revendique des espaces non mixtes hommes et femmes. Et donc, je n'ai vraiment aucune certitude, je l'entends, et c'est quelque chose que je n'arrive pas encore à intégrer, mais sans doute, comme les hommes, je veux dire là, parce que c'est moi qui suis dominante. Mais je pense humblement que de le reconnaître déjà, fera sans doute un peu plus avancer les causes. Et donc moi je pense que c'est dans le travail d'explication en commun et pas séparément qu'on pourra arriver à des consensus sur des points communs de solidarité entre femmes.
Alors je me trompe peut-être, vous me le direz si jamais. L'année qui vient de s'écouler a rappelé qu'au-delà de plein de clivages, au-delà d'Anne Morelli, au-delà de Catherine Deneuve, on pouvait s'unir autour d'une souffrance ou d'un ras-le-bol commun. Est-ce que le mouvement MeToo et Balance ton port marque une rupture dans le féminisme ou pas du tout ?
Rupture, non. C'est jamais que l'accentuation de ce que les féministes ont toujours dénoncé, en fait. Sauf que là, tout d'un coup, il y a eu... Enfin, c'est le propre, sans doute, aux réseaux sociaux, à une espèce d'appel d'air médiatique qui a fait tout d'un coup... Ça a pris une certaine importance, mais ça... Voilà, il y a eu une importance donnée par les médias qui était nécessaire. Mais je veux dire, la revendication, elle est clairement pas... clairement, elle date pas de cette année, quoi.
Mais donc si ce n'est pas une rupture dans le mouvement, le fait, l'exposition médiatique et le fait que ça devienne un débat public, avec un backlash qui a été immédiat, en fait. Mm-hmm. Qui peut expliquer backlash comme ça ? Je ne dois pas le faire.
Moi, je pense que ce qui est différent, c'est que maintenant, on nous croit. C'est que, je veux dire,
on nous croit vraiment ?
On nous croit. Non, mais je veux dire, le caractère massif des dénonciations... fait qu'on prend cette parole-là, elle est ancienne, ça fait longtemps que des femmes dénoncent des agressions sexuelles, du viol. Moi, je me souviens, même ne serait-ce qu'en France, quand il y a eu l'affaire DSK, le nombre de doutes qui ont été émis, et je veux dire, je pense que si ça ne s'était pas passé aux États-Unis, il n'aurait jamais été arrêté. Et ça a été très, très compliqué. Et on se rend compte qu'effectivement, là, devant le caractère massif des accusations, c'était impossible de nier le fait qu'en tout cas, certains hommes avaient été impliqués dans des agressions sexuelles. Et je pense qu'il y a... je ne dis pas qu'on croit tout le monde, mais en tout cas, on prend davantage au sérieux cette question de la violence et la voix des femmes. Et peut-être que ça a encouragé aussi d'autres femmes dans d'autres domaines. On a vu par exemple qu'en France, il y a eu plus de plaintes entre octobre
et décembre 2017, le nombre de plaintes pour violences sexuelles a augmenté. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu plus de violences sexuelles, mais simplement que les femmes, du fait du contexte, se sont senties peut-être plus en sécurité dans l'idée d'aller porter plainte et de confronter leurs agresseurs. Donc moi, je trouve que c'est cette peut-être prise au sérieux plus importante, même si on n'y est pas encore. Hein, quand on voit qu'il suffit que, voilà, ce qui s'est passé avec Asia Argento cette semaine, il suffit qu'une femme soit à l'origine d'une agression pour qu'on ça discrédite tout le monde, alors qu'on peut être agresseur et agressé, ça n'enlève rien. Et effectivement, on voit qu'il suffit de vraiment qu'il y ait ce qu'on nous demande en fait en tant que femme pour être autorisée à nous exprimer, c'est d'être absolument que tout le monde dans le mouvement soit à 100% irréprochable, inattaquable, pour que tout le monde soit crédible. Et on voit bien la fragilité, effectivement, de cette crédibilité. Mais je crois quand même qu'il y a quand même un espace où on peut exprimer ces questions-là qu'on n'aurait pas pu faire avant. Après, je veux aussi dire qu'il faut se décentrer. Je sais qu'il y a des pays où cette question-là, l'agression sexuelle, des violences sexuelles, a pris l'espace dans le débat public avant le mouvement MeToo. Je pense à l'Inde, par exemple. Voilà, c'est un pays qui compte beaucoup plus de personnes qu'il y en a sur notre continent, par exemple. Et cette question-là a été prise en charge il y a quelques années dans l'espace public par des femmes. Donc je crois aussi qu'il faut relativiser par rapport à ce qu'on est à l'échelle mondiale, ce qui se passe autour du mouvement MeToo, parce que d'autres femmes ont su s'emparer de la parole publique par rapport aux violences sexuelles à d'autres moments de l'histoire.
Le fait que le mouvement MeToo se répande comme une traînée de poudre, c'est dû aux réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, c'est évidemment un terrain de jeu formidable pour les féministes. C'est aussi un terrain de violence très forte. Et, à part Nathalie qui ne se fait pas insulter, évidemment.
Est-ce que ça va changer après ce soir?
Elle
n'est
pas sur Twitter, ça. Y a pas...
C'est ça, en fait, tout simplement.
On ne vous transmet pas.
Je ne suis juste pas sur Twitter.
C'est un sujet dont on discute de temps en temps. Les violences sexo-spécifiques, donc des violences parce qu'on est des femmes sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qu'on subit presque toutes. Comment tu le vis ?
Mais d'abord, de manière, c'était la surprise. Je pense à une expérience récente, c'était sur Facebook. J'ai donc participé à un débat. Enfin, pas un débat, une émission, pardon, le jeudi soir, j'ai oublié le nom, sur la RTBF. Voilà, un jeudi en prime, voilà, pardon. Et on évoquait la question des visites domiciliaires, et à un moment donné, je dis oui, écolo pourrait assumer le fait d'appeler à la désobéissance civile. Donc l'émission se passe, etc. Et puis alors, plusieurs interventions, dont une dont je me rappelle en particulier, alors c'est un prof associé dans une grande université francophone, qui s'indigne de ces déclarations, et plutôt que de m'interpeller, il interpelle, j'allais dire la terre entière presque, il interpelle Jean-Marc Nollet, il interpelle Patrick Dupriez, il interpelle Jean-Michel Javot, donc toutes les figures d'autorité masculine du parti. Alors, j'ai halluciné, quoi. Je dis, d'abord, je suis présidente,
la petite
et donc
je n'ai
pas besoin d'avoir l'accord, voilà. Mais alors, donc je l'ai partagé comme cela, en disant, c'était hallucinant. Et on a eu un échange privé, lui-même s'excusant, me disant « je n'ai pas pris la mesure ou je ne me suis pas rendu compte du biais que mon interpellation induisait, mais vous avez raison, parce que par ailleurs, il aurait pu interpeller une ancienne présidente, Sarah Turin, Isabelle Durand ou Evin Uytebroek. Il n'y en a interpellé aucune. » Et donc, il reste, parfois un regard sur les... Alors en plus, bon, pour ce qui me concerne, je cumule les deux. Je suis femme et je suis... Je suis de la diversité, hein, comme pour être dans le politiquement correct. Et donc, à certains moments, c'est vrai qu'il y a un certain paternalisme et un manque de légitimité ou de crédibilité aux yeux de certains. Alors, je vais le dire rapidement, on est en train, etc. Mais d'hommes blancs, alors je vais dire de largement plus de 50 ans, puisqu'ils sont en politique depuis 40 ans, et qui, c'est vrai, portent un regard de manière générale sur les jeunes politiques et assez paternaliste, mais encore un peu plus. Quand on est femme de la diversité.
Au-delà de la question du paternalisme, il y a la question des insultes, de la violence. Toi, tu subis encore de nombreux appels au viol, à te livrer au Ku Klux Klan. C'est ton quotidien sur les réseaux sociaux.
Ma timeline, c'est une constellation d'injures quotidiennes. C'est vraiment... c'est assez spectaculaire de voir à quel point les gens déjà sont très imaginatifs. Hein, pour, à chaque fois, tous les jours, je suis surprise, je me dis « Ah bah tiens, celle-là, je ne l'avais jamais vue. » Et pourtant, ça fait quelques années, donc c'est vraiment saisissant de voir à quel point les gens débordent d'imagination quand il s'agit de m'insulter. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment un mélange de sexisme et de racisme. Mais ce que je crois, c'est que quand une femme s'exprime publiquement, on essaye systématiquement de l'intimider. Et c'est de l'intimidation. Le fait d'appeler à notre viol, par exemple, moi j'ai reçu plusieurs appels au viol, dont deux ont été sanctionnés. C'est une manière de nous rappeler à notre féminité, à notre condition de femme, et de dire qu'on va te rappeler que tu n'es qu'une femme. Et on va te le rappeler de manière très, très, très violente. Parce que quand on menace de nous en prendre à notre intégrité physique, on ne nous menace pas de nous mettre un coup de poing dans la figure comme on pourrait le faire avec un homme ou d'aller se battre en duel, etc. On nous menace de nous violer et c'est vraiment nous réduire à notre condition de femme et c'est ça. Et vraiment de manière genrée en l'occurrence. Et puis après, ce que je crois, c'est que le fait d'être une femme, de s'exprimer avec assurance dans l'espace public, c'est vécu comme une forme d'arrogance folle. C'est-à-dire que là où chez un homme, on trouve ça formidable que les hommes soient sûrs d'eux, s'expriment publiquement, la tête droite, disent des choses sans scier, etc., on trouve ça formidable. Quand c'est une femme, on a l'impression que, qu'elle se la raconte, pourquoi elle nous parle comme ça. Moi, je vois souvent, je dis sur les réseaux sociaux que je suis méprisante, que je prends les gens de haut, etc. Non, je suis juste une femme qui sait à peu près de quoi elle parle et qui ne. Voilà, je ne suis pas désolée d'être noire, je ne suis pas désolée d'être une femme, c'est comme ça. Et franchement, si les gens ne sont pas contents, ils ne sont pas obligés de m'écouter. Et merci. Et ça, on voit, merci beaucoup, on voit que ça indispose, parce qu'il y a une habitude dans l'espace public d'inconfort qui est le confort de l'entre-soi. Il y a des gens qui sont habitués, notamment ceux qui sont en politique depuis 40 ans, à parler entre eux, entre hommes, majoritairement blancs, et à se parler de choses qui... et à parler de nous, mais dans les termes qu'ils ont définis. Et nous, c'est vrai, quand on arrive, qu'on parle de sexisme, qu'on parle de racisme, évidemment, ça les dérange, parce que ça les met en cause, et ils sont obligés de nous écouter, parce qu'on n'en parle plus dans nos cercles. Qui ne sont pas des cercles, qui sont des cercles restreints. On en parle en tant que femme politique, présidente de parti, en tant que journaliste, en tant qu'universitaire, et ils sont obligés de nous entendre. Et ça déclenche une forme de violence parce que, il y a des gens qui ont théorisé, une femme en particulier, Robin DiAngelo, qui a théorisé ce qu'elle appelle la fragilité blanche, c'est le fait que les personnes qui ne sont pas exposées, qui ne vivent pas le racisme dans leur chair, donc les personnes blanches, ne sont pas habituées à entendre des questions relatives au racisme. Alors que nous, quand on est visé par le racisme, on en parle beaucoup parce qu'on le vit quotidiennement, et c'est vrai qu'on a un niveau de tolérance par rapport aux discussions sur le racisme qui est très élevé parce que c'est notre quotidien. Et donc les gens qui ne sont pas habitués, dès qu'ils en entendent parler, ils se sentent agressés, ils se sentent attaqués, ils se sentent mis en cause. Et je crois que l'agressivité, elle est là. Et c'est la même chose, je pense, pour le sexisme, hein, qui a une fragilité masculine par rapport à l'évocation du sexisme, qui est, c'est-à-dire qu'eux, ils supportent pas, dès qu'on leur parle de sexisme, ils disent « Oh mon Dieu, hystérique, c'est pas possible, etc. etc. » Et donc, ça déclenche une forme de violence qui vise à nous faire taire pour retourner dans un confort où ils n'entendent pas parler de ces questions. Et je pense que, moi, ce que je lis sur les réseaux sociaux, sur moi, c'est vraiment ça. Je me suis encore fait traiter d'hystérique tout à l'heure par...
La base.
Voilà, c'est ça, la base. C'est une hystérique islamiste. Hystérique,
aussi.
Islamiste radical. Voilà,
raciste anti-blanc.
Je suis anti-blanc. On
leur explique que ça n'existe pas, le racisme anti-blanc.
Comme on le dit, la question du racisme ou du sexisme, c'est une question de pouvoir et de privilège. Donc les personnes qui sont des femmes ou qui sont des minorités n'ont pas le pouvoir de mettre en place un système de domination qui nuirait aux droits des gens qui sont majoritaires. Je pense que c'est un désavantage nulle part d'être blanc. C'est-à-dire que personne n'a été privé d'un bien ou d'un service parce qu'il ou elle était blanc. Alors effectivement, il peut y avoir des interactions individuelles désobligeantes, mais ce n'est pas un désavantage d'être blanc. Et si, parce qu'on vous a dit vous êtes blanc, vous avez l'impression que vous êtes attaqué, franchement, je vous invite à vous pencher sur ce que signifie vraiment le racisme, parce que si on se contentait de nous décrire physiquement, je pense qu'on irait bien. Donc oui, la violence des réseaux sociaux, c'est vraiment... Et malheureusement, l'intimidation marche, parce qu'il y a beaucoup de femmes féministes qui quittent les réseaux sociaux parce qu'elles ne supportent pas le fait d'être sans arrêt exposées à de la violence. Et puis après, aussi cette manière de vraiment essayer de tourner en ridicule les revendications des femmes en disant, en s'acharnant sur elles et en prenant un propos isolé et en le ridiculisant pour qu'elles se sentent délégitimées dans leur prise de parole.
Alors, sur toi, ça fonctionne pas du tout ?
Non.
Je sais pas comment en fait, ça, en fait,
moi, ce que je trouve incroyable, c'est de voir qu'il y a autant de gens qui sont aussi préoccupés par mon existence. Je me dis que franchement, non, mais c'est dingue. Je veux dire, je me dis, si ça intéresse autant à ce que je dis, c'est que je dois dire des choses super intéressantes. Donc, je me dis que le mieux, c'est de continuer à les dire pour qu'ils continuent à les explorer, à les expliquer, à les décortiquer, à les décrypter.
Et un jour, ça va percoler.
Bah, je me dis que forcément, si ça les occupe autant, c'est que... Je pense qu'on ne peut pas faire, et je dis ça vraiment en toute humilité, hein, mais qu'on ne peut pas faire bouger un système sans irriter les tenants de ce système. C'est-à-dire que si on se prétend... Enfin, si on se dit antisexiste, anti-homophobie, antiraciste, et que ça ne dérange personne, c'est qu'on est à côté du sujet. C'est sûr que les gens qui bénéficient du système, bah, ils ont tout intérêt à faire en sorte qu'on arrête de parler, quoi.
Je crois que c'est Christine Delphi qui disait que la révolte des dominés prend rarement la forme que les dominants souhaitent.
C'est sûr.
Définition. Ouais.
On va pas leur demander s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous faire un peu de place, parce que ça va pas marcher, en fait.
Alors, toi, tu gères plutôt bien, mais t'en as parlé, il y a eu des défections. Il y a 2 ans, c'était au Québec, une défection de féministes québécoises sur les réseaux sociaux qui ont disparu. Il y en a qui ont quitté leur boulot de journaliste, il y en a qui se sont écartés de la militance, il y en a beaucoup qui ont disparu des réseaux sociaux tellement c'était violent. Grosse défection de françaises cette dernière année, je dirais. Crêpe Georgette, Nadia Dam pour le moment, qui a disparu, Caroline De Haas est partie... Belge, Brand et moi, on tient bon, ça va. Si ça ne fonctionne pas avec toi, ça fonctionne avec beaucoup de femmes. Si à un moment, on fait disparaître les voix féministes, alors c'est pour ça que je parlais des réseaux sociaux qui sont un formidable terrain de jeu, mais aussi de violence et un terrain d'opportunité, mais qui est compliqué à investir.
Les réseaux sociaux ?
Ouais. Je dis ça parce que tu y es pas. C'est un porte-voix extraordinaire. C'est pas la première fois que quand les féministes s'expriment, ouais, on leur dit gentiment d'aller.
Oui, tout à fait. Ben oui, ça c'est dans l'histoire même des féminismes d'avoir constamment été exactement comme tu viens de le dire. Soit on se moque d'elles, soit on les insulte.
On les guillotine, ça, ou on les tue.
Ou alors on médicalise, on dit oh là là, sont hystériques, sont un peu folles, santé mentale défaillante, etc. Donc voilà, effectivement, je rallie tout à fait l'avis de Rocaille. Voilà, on a tout intérêt à faire taire celles qu'ils veulent en fait saper les privilèges de ceux qui ordonnent le monde, on va dire, juste comme ça. Donc comment faire ça, je...
Zakia, qu'est-ce qui fait que on y est encore sur les réseaux sociaux?
Bah, moi, je le sais, c'est parce que je n'étais pas connue et donc c'était le seul moyen de me faire un nom. Mais en effet, donc, moi, je dois dire que en fait, j'ai pris 2 mois de congé des réseaux sociaux.
Alors, t'as bonne mine.
Voilà. Et vraiment, ça a été une délivrance. D'abord parce que c'est vrai que... Alors, je ne suis pas la dernière à tweeter. Ce n'est pas un secret pour personne et certains d'entre vous le savent mieux et plus douloureusement que d'autres. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a un emballement, il y a un emballement tel que il est impossible de tenir une discussion et un débat. Et c'est vrai que l'annonce du débat qu'on tenait ici avec Rocaille, d'abord, je voudrais dire que le contexte belge est beaucoup moins violent. Enfin, je veux dire, on voit bien les violences auxquelles tu as eu affaire, ou Myriam, mais c'est sans commune mesure avec ou ce que moi j'ai connu, mais c'est sans commune mesure avec ce que Rocaille vit en France et d'autres. Je veux dire, il y a vraiment un contexte.
Oh, Myriam,
Myriam, oui, d'accord, mais on voit bien. Oui, donc, mais là, c'est systématique, c'est constant. Enfin, je veux dire, il suffit d'aller regarder le fil. Donc, il y a quand même un contexte différent en France et en Belgique encore.
Et pourtant, il y a quelque chose de systémique, que ce soit la France ou la Belgique.
Oui, d'accord, mais je veux dire, mais il y a quand même quelque chose qui se passe. Et l'annonce de ce débat aujourd'hui a suscité des réactions, mais dans un groupe très particulier.
15 tweetos, donc 10 sous pseudo. Donc, je connais la moitié des vraies identités, si vous voulez.
Et qui, en fait, donc outre le fait de dénoncer qu'on donnait la parole à Rocaille, dénoncer la non-diversité des opinions. Alors, c'est sûr qu'entre une arabe et une noire, il peut y avoir beaucoup de différences dans les opinions. Enfin, voilà. Donc, je regrette que ceux que tu évoquais tout à l'heure ne soient pas là, parce qu'il y en a. Et je veux dire, il y en a, et elles peuvent être profondes. Et donc, Ça disait aussi quelque chose de ces 15, mais qui ont réussi à, enfin quand même, qui ont réussi à avoir une page pleine dans un quotidien belge. Enfin, je veux dire,
il y a une
caisse de résonance.
Double page d'interview de Rocaille dans le Soir.
Oui, oui, d'accord. Mais je veux dire, il y a une caisse de résonance telle que, et en même temps, on le sait aussi, il y a des groupes organisés sur les réseaux sociaux et ils sont d'une efficacité redoutable. Et parfois, être tout seul face à ça. Enfin, moi, je ne comprends pas, Rocaille, comment est-ce que tu prends le temps de répondre ou d'interpeller ou d'encore en rire. Je veux dire, il y a une organisation derrière. Ce n'est pas un monsieur qui n'est pas content ou une dame qui n'est pas contente et qui te le dit, ça arrive. Mais il y a vraiment des réseaux qui sont organisés en France, notamment, plus qu'en Belgique. En Belgique, c'est... je pense en particulier pour ce qui te concerne, Florence et Myriam. Mais je veux dire, il y a vraiment des groupes organisés. Et j'ai le sentiment qu'en Belgique, ça commence. Je veux dire, longtemps, c'était des trucs individuels, mais ici, en tout cas pour ce qui me concerne, je me rends compte qu'il y a, à un moment donné, je me dis, mais c'est pas possible, ils viennent tous du même camp de vacances, ils ont tous reçu la même consigne, et ça y va. Et c'est ça qui est insupportable. Et donc moi, après mes 2 mois, tu disais, qu'est-ce qui fait qu'on reste ? Moi, je suis pas certaine que je vais rester. C'est une vraie question.
Tu n'es pas attaquée pour ce que tu es fondamentalement, parce qu'ils ne savent pas ce que tu es fondamentalement. Tu es attaquée pour ce que tu représentes. Qu'est-ce que tu représentes ?
Il faut leur poser la question, j'en sais rien. Je ne sais pas ce qui en moi fait que... Mais sans doute, ce que Rocaille explique aussi, c'est-à-dire à un moment donné, oui, tu interpelles, tu questionnes, tu ne te tais pas, tu deviens l'emmerdeuse de service, hein, clairement. Et ça remet... ça me fait penser à un groupe d'hommes, des masculinistes, qui aujourd'hui, enfin il y en a quelques-uns sur la toile avec qui
de discuter, sans déconner.
Voilà. Et en fait, pourquoi est-ce que je disais ça ? Oui, sur des groupes organisés, etc. Bon. Et donc, et oui, voilà, par un profil comme le mien, c'est clair qu'ils sont mis en insécurité. Et donc, ils disent revendiquer l'égalité, mais non, le masculinisme revendique le retour des privilèges et de la domination masculine. Et donc, le fait de ne pas correspondre ou de les interroger, de les fragiliser dans des convictions et dans des modèles où ils ont un rôle prédominant, ben, c'est sans doute ça qui les met à mal. Mais c'est vrai que c'est compliqué à comprendre. Quand on évoquait tout à l'heure, puis je m'arrête là, mais dans le cadre de ce nouveau master en genre, un homme dans l'assemblée, un étudiant qui dit ben, « moi, je vais peut-être arrêter parce que ma virilité est mise à mal », je pense que les choses, elles sont dites. Alors, il faut débattre, je veux dire, mais ça
c'est
veut dire
c'est,
quoi
c'est qui c'est, je les connais.
C'est quoi, enfin, où tu la places, voilà, où tu places ta virilité. D'abord, c'est quoi la virilité ? En quoi est-ce qu'elle est mise à mal par le fait d'essayer de comprendre et de déconstruire un modèle qui a fait qu'on vit dans un monde patriarcal. Et moi, je dis aussi souvent, facilement, que le patriarcat, des hommes en sont aussi victimes. C'est un modèle qu'on combat, c'est pas une lutte des femmes contre les hommes. Moi, je connais des hommes qui ont fait l'objet, alors c'est une minorité, donc je le dis tout de suite, etc., mais qui ont été victimes de violences conjugales, et qui vont, pour essayer de porter plainte, et qui sont reçus par des policiers qui lui disent « mais c'est quoi cette femmelette ?» Enfin voilà. Et donc, ce sont, je trouve, des exemples qui permettent de comprendre que c'est un modèle patriarcal, avec ce que ça charrie comme image de l'homme fort qui ne pleure
être pas, un homme
et surtout qui ne se fait pas taper par sa femme. Donc c'est le modèle, voilà. Alors je dis bien, ça reste une minorité, enfin voilà, etc. Mais c'est bien un modèle qu'on combat, et c'est pas un homme et sa virilité, quoi.
Vous étiez le 24 août 2018 à la Cité Miroir, à Liège, pour la première partie de ce débat sur le féminisme, une nouvelle vague, de nouveaux combats. Les oratrices étaient Rocaille Diallo, écrivaine, réalisatrice, journaliste et militante féministe française, Nathalie Grandjean, chercheuse à l'Université de Namur, doctorante en philosophie et administratrice de SOFIA, le réseau belge des études de genre, Isaki Akatabi, coprésidente d'Écolo. Le débat est animé par la journaliste Florence Hénaud. Retrouvez la deuxième partie de cet enregistrement dans un prochain podcast.